Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta grande grâce que tu nous as réveillés de notre sommeil, de la nuit, et que tu nous accordes ce temps, ce matin. Sois avec ton peuple, partout où ils sont et partout où ils sont rassemblés. Nous prions que tu sois à l'œuvre. Amen. J'ai cette annonce à faire passer. Nous avons dans nos branches de la mission, pour la première fois encore, pendant cette période de COVID, la première fois aujourd'hui, que nos coéquipiers sont sortis pour aller prêcher dans ces branches. C'est la première fois que, après le confinement, que beaucoup sont partis pour aller prêcher à Escort. Et Ngoubane, M. Ngoubane et certains d'entre eux sont allés à Escort. M. Kumalo sont allés à Msinga avec les autres. Certains sont allés à Winen. Donc je ne serai pas capable de mentionner tous les endroits où ils sont allés prêcher. C'est pourquoi, pendant ma prière, j'ai prié afin que le Seigneur soit avec eux. Nous avons aussi annoncé à d'autres stations comme Dandi et les autres d'être patients. Peut-être la semaine prochaine, dimanche prochain, il y aura aussi des gens. Et nous annonçons cela parce que les autres n'ont pas reçu l'annonce pour qu'ils soient aussi informés. Donc il y a eu ce désir, cette demande d'autres personnes. Ils ont demandé que est-ce que les personnes de la mission ne peuvent pas aussi venir les rendre visite. Donc ce matin la réunion sera prise par Dr Fanny Eden. Nous allons tout remettre à Dr Fanny Eden. Avant de continuer avec la parole de Dieu, prions encore ensemble. Le Seigneur, tu as tant aimé le monde et c'est pour cela que tu as donné ton Fils unique pour ce monde. Afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Nous te prions que cet amour céleste soit dans ce culte aujourd'hui. Et que ton Saint-Esprit allume ton feu céleste dans nos cœurs au milieu de nous. Amen. Aujourd'hui, j'ai l'intention de parler sur l'amour. L'amour est un point très très important dans la Bible. C'est partout dans la parole de Dieu qu'on trouve ça. Depuis l'Ancien Testament, tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Et c'est le premier et le plus grand des commandements. Et le Seigneur Jésus a aussi repris cela et il a dit ça. Le Seigneur a dit, par cela, les gens sauront que vous êtes à moi, vous m'appartenez, quand ils verront l'amour au milieu de vous. Et par cela, les hommes connaîtront que vous êtes mes disciples. La Bible dit que Jésus a dit dans Matthieu que beaucoup de faux prophètes s'élèveront et conduiront beaucoup à l'égarement. Et à cause de l'augmentation de l'iniquité, l'amour de beaucoup se refroidira. Il y a un livre dans la Bible, tout le livre parle de l'époux et de l'épouse, et cela fait référence à Christ et à son Église. Et Paul a dit qu'il y a ces trois choses qui demeurent, il y a la foi, l'espérance et l'amour. Mais le plus grand de ces trois est l'amour. Mes amis, nous ne pouvons pas nous détourner de cela, car l'amour est le thème principal, le thème central de la parole de Dieu. Et la définition où la signification de l'amour, du mot amour a été attaquée par Satan de manière très forte. À tel point que quand certaines personnes lisent l'amour de Dieu dans la Bible, ils n'ont pas la moindre idée de ce que cet amour signifie. Beaucoup d'entre eux que c'est charnel et que c'est un amour humain. Beaucoup pensent que c'est l'amour d'Hollywood. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que l'amour entre mari et épouse doit être un amour d'Hollywood. L'amour qui a été créé dans Hollywood est juste basé sur un amour charnel. Mais mes amis, permettez-moi de dire ceci. Nous tous et nos vies sont contrôlés par l'amour. Et je crois que il sera approprié pour que nous nous regardions à nous-mêmes, nous nous examinons pour en savoir quel amour contrôle ma vie. et même l'amour entre mari et femme, mari et sa femme. C'est pour cette raison que j'aimerais ouvrir dans Psaume 45 au verset 10. À partir du verset 10 au chapitre 45. Psaume 45 au verset 10. Ou au verset 11 dans notre Bible. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Verset 12 chez nous. Le roi porte ses désirs sur ta beauté, puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Ici, il est question de l'amour qu'une princesse étrangère doit avoir pour son mari. Et nous savons que c'est comme ça que les gens de la royauté se marient. Le roi peut prendre pour femme une femme, une personne d'une autre nation. Et c'est ce qui arriva au roi, à la reine Esther. Elle avait été appelée pour se marier au roi Xerxès. Elle est vraiment un exemple typique, classique de cela. Et je pense que cela nous donne une idée de l'amour ou l'amour de Dieu, l'amour qu'il espère de nous, même dans nos mariages. Mais avant de parler de cet amour, et j'aimerais continuer en développant sur cet amour. J'aimerais d'abord commencer à parler de l'amour qui prend très souvent la place de l'amour de Dieu, l'amour, le vrai amour. L'amour habituel que quelqu'un a ou que cet amour qu'on trouve partout dans le monde entier. Sinon pas cet amour dont nous lisons ici dans ces versets, et vous savez quel est cet amour? Vous allez immédiatement, si vous n'avez pas l'amour véritable, vous allez avoir cet amour-là. Quel amour c'est? C'est l'amour de soi, l'amour pour soi-même. J'aimerais lire un verset dans Ézéchiel, chapitre 34, au verset 2. Ézéchiel, chapitre 34, au verset 2. fils de l'homme. Prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur, aux bergers, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui se paisaient eux-mêmes. Les bergers ne devaient-ils pas paître le troupeau? Est-ce que je peux relire cela encore? Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël, prophétise et dis-leur aux bergers, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui se pesaient eux-mêmes. Les bergers ne devaient-ils pas paître le troupeau? Quel était le problème des prophètes d'Israël ou des bergers d'Israël? Ils avaient de l'amour pour eux-mêmes plus que l'amour qu'ils avaient pour les brebis. Ils se nourrissaient eux-mêmes au lieu de nourrir les brebis. Dis-moi, mon ami, quel effet la COVID-19 a eu sur toi? Est-ce que tu n'as peut-être pas commencé à te nourrir toi-même en t'occupant de tes propres affaires et en vivant que pour toi-même? Et plus tard, dans la parole de Dieu, il est dit que je ferai de toi mon ennemi à partir de maintenant, vous, bergers, qui vous nourrissez vous-même. Ne dites pas que cette parole est que pour les pasteurs. Je ne suis pas pasteur, je ne suis qu'un chrétien ordinaire. Chaque chrétien doit être berger. Parce que chaque chrétien a un groupe de personnes qui connaissent qu'il est chrétien ou qu'elle est chrétien, qui vous regarde, qui espère de vous, que ce soit un autre groupe ou que ce soit un groupe de chrétiens ou peut-être des membres de votre famille qui vous regardent ou vous observent. Vous, en tant que père, tu es supposé être un berger pour ta famille. Et toi, en tant qu'enfant, tu es supposé être berger qui vit une vie pas que pour toi-même, pas pour tes ambitions, pour terminer tes études et faire ce que tu veux faire et te marier avec qui tu veux te marier, mais pour vivre pour tes parents, une vie pieuse, afin que ces parents qui sont à toi te regardent et s'attendent de toi. Mais nous tous ici, nous vivons en communauté. Nous tous, nous sommes supposés avoir le fardeau de Christ et de l'Évangile et de le partager aux autres. Dites-moi, est-ce que vous avez partagé le fardeau de l'évangile pendant cette semaine ou il y a quelques mois en arrière? Est-ce que vraiment en réalité vous avez partagé, vous avez témoigné de l'évangile avec vos collègues ou avec les gens qui sont proches de vous? Si tu n'as pas cette faim, ce désir, je vais aller jusqu'à dire, chers amis, chers chrétiens, que tu es mort. Qu'est-ce qui est arrivé pendant cette période de Covid? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton assemblée? Est-ce que tu as pris soin du reste de l'assemblée? Est-ce que tu as donné le meilleur de toi-même d'allumer le feu du Saint-Esprit, d'allumer le feu du Saint-Esprit pour ranimer vraiment la vie de ceux qui sont dans ton assemblée? Ou est-ce que tu as glissé dans cette période maudite où tu es en train de te nourrir toi-même et que tu y es occupé que pour ton propre confort? Je vais dire quelque chose qui peut-être est un risque de dire. Je peux juger la qualité de la vie chrétienne de quelqu'un et la profondeur de la vie chrétienne de quelqu'un au niveau où, par rapport à la manière que cette personne vit envers les autres. Je ne vais jamais oublier la leçon que j'ai apprise de ma femme tout de suite après qu'on s'est marié. Je ne pense pas que chaque mari ou chaque mère doit être trop fier de ne pas prendre de sa femme. On conduisait la voiture. Et on écoutait les chants de Ernie Ford, qui sont des chants chrétiens ou religieux. Et dans un des morceaux, il disait que « Seigneur, donne-moi la force pour vivre pour les autres ». Et soudain, elle a dit, c'est ça la prière que j'ai pour ma vie. Et on avait déjà écouté plusieurs morceaux, des jolis morceaux de Annie Ford. Mais quand il a dit, Seigneur, donne-moi la force pour vivre pour les autres, je ne me rappelle plus des mots spécifique qu'il avait utilisé, mais elle a dit, mon épouse a dit, Seigneur, que c'est ça la prière pour ma vie. Vous, chers amis, qui êtes chrétiens, peut-être membre de Kouassi Zabantou, peut-être vous êtes dans une des branches. Est-ce que tu n'as pas commencé à vivre que pour toi-même? Est-ce que tu n'as pas commencé à te nourrir toi-même? Et Dieu dit, Oh, berger, les bergers ne devraient-ils pas paître le troupeau? J'aimerais lire quelque chose pour vous montrer combien c'est subtil, combien cet amour peut facilement pénétrer, arriver, entrer en nous. Parce que certains chrétiens, quelque part, ils ne peuvent pas oublier l'amour du monde et ça demeure encore quelque part dans leur vie, dans leur pensée. Et cela a été écrit par Alexander Zenichsen. Alexander Rawl Zenichsen. Et il était dans un camp de travaux forcés en Russie, et c'était un camp où on envoyait les chrétiens. Il était dans ces camps-là. Il a écrit un morceau de littérature et qui plus tard a reçu le prix Nobel. Et quand il est sorti, il a écrit ses paroles. Et quand il était encore dans ces camps de concentration, il est sorti de là. Et là, en Sibérie, il était moins de 50 degrés. Il dit qu'il y avait des personnes qui étaient secrètement ou qui servaient le diable, qui commettaient les choses horribles. Et c'était nécessairement pour qu'ils se séparent de nous et pour qu'ils soient détruits. On pouvait le faire, mais écoutez ce qu'il dit. Mais la ligne qui divise le bien, le bon et le mal coupe ou divise le cœur de chaque être humain. Et qui est cette personne-là? Prête à détruire un morceau de son cœur. Qui est prêt durement, détruire durement un morceau de son propre cœur? C'est ce qui permet à cette ligne qui divise entre le mal et le bien de pénétrer dans leur cœur. Est-ce que vous permettez cela? Est-ce que tu as permis cela? Afin que cette ligne coupe, sépare ton cœur. Est-ce que tu as fait cette chose-là que les gens n'aiment pas faire? Et que tu es prêt systématiquement à détruire une partie de ton cœur? Paul a dit, prenez toute pensée captive en Christ. Et voilà ma question. Est-ce que ta vie est résumée que à te nourrir toi-même ou est-ce que tu nourris les autres? Pour qui vis-tu? Est-ce que tu passes les meilleurs moments que pour toi-même? Tes meilleurs moments, les meilleurs moments que tu as, est-ce que cela, ces moments-là sont dépensés que pour toi? Tu les dépenses que pour toi-même? S'il te plaît, honnêtement, réponds-moi. Et sur quoi dépenses-tu ou sur quoi passes-tu du temps dans tes pensées? Est-ce que tu passes du temps dans tes pensées que pour toi-même? Ça peut être très subtil. Tu peux vivre pour le Seigneur. Et dans le processus des choses, les choses peuvent être difficiles pour toi. La vie devient difficile pour toi. Et tu commences à penser, à avoir des pensées, à te nourrir pour toi-même. Et tu passes la plupart du temps dans tes pensées que pour toi-même. Ou est-ce que tu inutilement passes du temps dans tes pensées dans des inquiétudes en disant qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais porter, qu'est-ce que je vais faire? Sur quoi dépenses-tu ton argent? Et avec sur quoi tes pensées, les pensées que tu as, les pensées qui t'occupent, est-ce que ce sont des pensées qui sont pour les autres ou ce sont des pensées que pour toi-même? Est-ce que tu as des pensées pour aider les autres? Je remercie le Seigneur que lorsque je suis venu en contact, suis rentré en contact avec ce réveil, j'ai rencontré un homme qui avait toujours les rêves pour les autres. Comment les gagner en Christ? Comment rendre la vie plus confortable pour les autres? Comment les assister, les aider et être une bénédiction pour eux? C'était pour moi. Et je ne dis pas que ça doit être là comme ça pour vous. Mais pour moi, c'était comme si il se vidait lui-même. Il rêvait seulement de l'Évangile et des autres autour de lui. Et mes amis, cela est rien. Et rien de moins que cela. C'est cela et rien de moins qui nous donnera vraiment la vie du réveil. Sur qui rêvez-vous? Et c'est ce qui nous donnera vraiment. Et c'est ce qui nous donnera vraiment le désir ardent de prier pour les autres. Et le désir ardent, ce n'est pas de se mettre à un moment donné à prier pour celui-là, pour celui-là, pour celui-là. Et avoir cette angoisse, dont l'angoisse, c'est quelque chose que la femme va ressentir quand elle est en train de donner naissance à un enfant. Je ne sais pas si vous avez été déjà à côté d'une femme qui est en train de accoucher. Et à chaque accouchement, tu te rends compte que la vie de cette femme, de cette mère, est à risque, est en danger, et la vie de l'enfant aussi est en danger. Si les choses ne se passent pas bien, l'enfant en mourra. Et pas seulement la vie de l'enfant, et même la vie de la mère est aussi en danger. Et soudain, si tu es là, c'est tout de suite, c'est la réalité qui éclaire en toi et tu dis que alors là, à ce moment, ce n'est pas un jeu. Oui, nous sommes dans le 21e siècle, mais ce n'est pas un jeu. Quand une femme donne naissance à un enfant, Paul a dit... J'ai des douleurs de l'enfantement pour vous, afin que Christ naisse dans votre vie ou dans vos vies. Il avait le. Il avait la même anxiété et l'angoisse pour d'autres assemblées. Pour qu'ils demeurent fermes, qu'ils aillent en profondeur avec le Seigneur et qu'ils grandissent spirituellement. Chers âmes, chers frères et sœurs, est-ce que vous n'avez pas perdu cela pendant la période de Covid? J'ai été choqué un jour. Quand j'ai appris que les gens peuvent se connecter aux réunions du soir qui ne durent que 30 minutes, mais j'ai appris que certains n'ont même pas le temps, ne prennent même pas la peine de le faire. Vous commencez à dire que je vais continuer avec la lessive ou avec la vaisselle ou peut-être... je vais fixer peut-être le moteur de la voiture pendant que j'écoute la réunion. Et la froideur a commencé à descendre au milieu de nos frères et sœurs dans nos branches. Mon frère, pourquoi tu ne t'attaches pas à ces réunions qui sont plus précieuses que l'or? Pourquoi tu n'arrêtes pas tout et appeler toute la famille ensemble? Pourquoi tu n'écoutes pas chaque jour et être prêt quand tu peux écouter la réunion chaque jour? La Bible dit que l'amour dans les derniers jours, l'amour de plusieurs se refroidira. Oui, peut-être tu es assis avec l'amour. mais c'est un amour vraiment, on peut dire, glacé, froid. Et la Bible dit que à cause de la multiplication de l'iniquité, l'amour de plusieurs se refroidira. Le berger qui a l'amour pour son troupeau porte ce fardeau dans son cœur jour et nuit. Et tu vas faire tout ce qui est à ton pouvoir de protéger ce berger de se disperser, d'être, de se sentir mal ou d'être détruit ou de se perdre. Un vrai berger n'est pas concerné de son image ou de ce que les gens pensent de lui, mais il est concerné du troupeau, de son troupeau, afin que le troupeau reste uni, soit un. Celui qui n'est pas le vrai berger, s'il est offensé, il ne se soucie pas de ce que le troupeau va devenir. Ils peuvent se disperser, ils peuvent aller où ils veulent, il n'a pas de souci. Allons dans quelques versets plus loin, dans le même chapitre 34 dans Ézéchiel. Ézéchiel 34, au verset 18. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? Au verset 19. Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. Si vous avez grandi dans des fermes d'autrefois, vous aurez eu un lac où votre troupeau allait boire. Et je ne me rappelle plus combien de fois j'ai vu cela arriver. Quand le soir arrive vers 18h, tu amenais des champs, tu amenais le troupeau pour boire. Et le premier arrive, va dans l'eau et boit, et boit, et boit. Et avant, c'était avant, voilà, dans des lacs ou des lacs qui avaient où les bœufs arrivaient et buvaient, et il y avait aussi de la boue, et pendant que ils posaient leurs pattes,
l'eau et la boue se mélangeaient et l'eau était trouble. Donc quand ils arrivaient d'abord, l'eau était claire, mais au fur et à mesure qu'ils buvaient, tout était trouble, tout était mélangé. Et les veaux et les vaches faibles, après, viennent après. Ils ne peuvent pas aller plus loin, plus en profondeur dans de l'eau parce que ce sont des veaux. Donc ils doivent boire vraiment de l'eau moins profonde, à l'eau où c'est moins profond. Donc ils vont commencer à boire de cette eau-là où c'est moins profond et ils vont commencer à boire de cette eau sale, de cette eau remplie de boue. Et voici ce que Paul a dit, ou pardon, ce que Ézéchiel a dit. Il dit, vous, bergers, vous recevez le vrai évangile qu'il y a le pardon de péché pour toute personne qui est prête à se repentir. Pour chaque personne qui a la bonne volonté de confesser ses péchés, il y a le pardon, il existe le pardon pour cette personne. Et c'est ça, l'eau pure de l'évangile qui va purifier le pire des pécheurs et sauver l'âme des pires des pécheurs, du pire de sauver l'âme du pire des pécheurs que vous pouvez imaginer. Comment peut-on troubler cet évangile avec de la boue? En faisant des compromis, les compromis avec le monde, en disant, écoutez, on peut pas aller à l'extrême, on peut pas être aussi, on peut pas être aussi des personnes radicales et de prêcher un tel évangile. Et je commence à prêcher un amour différent. L'amour qui ne demande pas que les gens confessent leurs péchés, qu'ils se purifient de ces péchés-là, pour qu'ils soient sauvés. Vraiment, un amour qui est dilué, un amour qui va facilement les accepter, même s'ils continuent avec le monde et même s'ils attirent le monde dans l'église. Mes amis, tu as reçu l'eau pure, l'eau limpide de l'évangile. Pourquoi as-tu troublé, as-tu mélangé cela avec la boue et as rendu cela moins cher pour les autres qui viennent chercher l'évangile ou qui viennent à l'évangile? Et tu sais qui sera conduit à l'égarement, ce seront les faibles, les plus jeunes, les jeunes chrétiens. Tu as souillé cette eau. Il n'y a plus la repentance. La repentance n'est plus nécessaire. Il n'y a plus la confession des péchés. Permettez-moi de vous partager ce que le docteur Sin nous a dit ces jours sur le péché, sur la confession des péchés. Ce que cela signifiait dans l'Ancien Testament, ce que ça signifiait dans l'Ancien Testament, la repentance pour recevoir le pardon des péchés. La grandeur du péché était comparée avec un animal aussi grand. Pour un petit péché, on prenait un animal, un petit animal. Et imagine que si tu allais au temple pour sacrifier pour ton péché. Voilà que tu entres au temple avec une chèvre. Peut-être tu as marché des kilomètres. Et tout le monde en chemin te regarde et dit, mais où vas-tu? Non, je vais au temple. Que vas-tu faire? Non, je vais sacrifier pour mon péché. Oh, tu vas sacrifier une chèvre pour ton péché. Et tout d'abord, chaque péché, chaque personne va comprendre le grand péché que tu avais commis. Et maintenant, tu arrives au temple, tu prends cet animal. Et tu t'es supposé mettre ta main sur la tête de cet animal, porter ta main sur sa tête. Et toi-même, tu devais passer le couteau à la gorge de cet animal, tu l'égorgeais. Et en mettant la main sur la tête de cet animal, tu transférais ta culpabilité et le mal que tu avais commis, tu le transférais dans cet animal-là qui ne connaissait rien, qui n'était pas coupable du péché que tu avais commis. C'est toi qui devais mettre la main, porter la main sur la tête de cet animal. Et transférer de cette manière ton péché dans la vie de cet animal innocent. Et par exemple, le fait que tu aies commis adultère, l'immoralité, le vol, et tout cela, ça passait dans cet animal. Et pendant que cet animal est en train de mourir et d'étouffer, et que le sang est en train de sortir de sa bouche, manque d'air, tu prends de ce sang et ensuite tu prendras de ce sang qui sera maintenant donné comme une offrande. Et ensuite, tu étais supposé dire au roi, le prêtre, le sacrificateur, le péché que tu avais commis. Nous savons que nous avons maintenant l'agneau de Dieu qui a été immolé, qui a été sacrifié. Est-ce que tu as honte d'apporter ton péché à la lumière afin que cet agneau de Dieu te purifie de ton péché parce qu'il est mort pour ton péché? Ou est-ce que tu es très orgueilleux? Tu n'as même pas besoin de faire tout cela, mais tu es très orgueilleux au point où tu ne veux même pas mentionner ton péché, le dire par son nom. Je m'empresse parce que le temps est en train de passer. Voici une autre manière qu'on peut troubler l'eau avec la boue. Si par exemple tu es confronté sur tes péchés,
au lieu de l'accepter et de demander le pardon, tu as de la rancune dans ton cœur contre cette personne qui m'a confronté sur mon péché. En d'autres termes, en d'autres mots, tu deviens un pharisien. Qu'est-ce que le Seigneur, ce que le Seigneur avait dit aux pharisiens, ce n'était pas pour les condamner, ce n'était pas pour les éloigner ou pour leur dire qu'il n'y a pas d'espoir pour vous. Quand lui et Jean-Baptiste les appelaient une race de vipères, c'était pour qu'ils se repentent. C'était la même chose qu'il avait fait avec la femme samaritaine. Quand il a dit à cette femme, appelle ton mari, et quand elle a avoué, quand il a demandé, va appeler ton mari, et en lui disant que voilà, tu as vécu avec cinq maris déjà. Mais elle n'avait pas été offensée par cela. Elle a bu cela comme de l'eau pure. Elle a permis à ce que ses paroles l'entraînent à la conviction de ses péchés et au salut. Mais si tu es pharisien, tu es offensé lorsque tu es confronté sur tes péchés. Et tu commences à haïr et garder de la rancune contre cette personne-là qui t'a confronté sur tes péchés. Et tu enseignes, et tu vas enseigner à tes amis et à ceux qui espèrent en toi. Tu vas enseigner à ceux qui te suivent à ne pas boire de l'eau pure, mais par contre d'avoir de la haine contre quelqu'un qui te confronte sur tes péchés. Quand le Seigneur a parlé de la parabole du pharisien et du collecteur d'impôts qui allait au temple, et le collecteur d'impôts qui frappait sur sa poitrine, qui disait « Seigneur, aie pitié de moi ». Mais le pharisien lui disait que « Merci Seigneur de ce que je ne suis pas comme un tel ou un tel, comme même ce collecteur d'impôts ». Il n'a pas dit cela pour complètement... détruire le pharisien qui n'y a pas de salut pour lui. Non, il avait le désir de créer la faim spirituelle dans le cœur de ce pharisien pour qu'il obtienne le salut de la manière correcte. Le vrai berger qui aime son troupeau. Fera confiance à Dieu et restera ferme en Dieu. Il ne va pas enseigner à son troupeau de faire ce que la majorité veut. Il ne va pas enseigner au troupeau et leur permettre afin que la mondanité vienne au milieu d'eux. Mon ami, débarrasse-toi de la mondanité dans ton église. Les heures qui sont dépensées sur des magazine séculier de ce monde, la manière de
s'habiller du monde qui est entré dans l'église. Non, le vrai berger qui prend soin de son troupeau va aller contre cela et va garder l'eau pure pour que beaucoup, pour que plus de péchés pour que beaucoup de pécheurs viennent trouver du salut, afin qu'ils ne trouvent pas au milieu de nous de l'eau troublée, de l'eau souillée. Regardez seulement au troupeau, si le troupeau est mondain. Le berger aussi, il est mondain. Comment vous pouvez... Je n'ai pas trouvé... Et pour reconnaître un mauvais berger, c'est aussi des personnes qui acceptent toutes les personnes qui refusent de se repentir ou de donner leur vie à Dieu quelque part. Et en faisant cela, ils se disent qu'ils sont en train de... Voilà, qu'ils ont de l'amour pour les âmes égarées en acceptant n'importe qui ne veut pas se repentir de manière authentique. Et ils accusent les bons bergers, les vrais bergers, en leur disant que voilà, vous êtes en train de maltraiter le troupeau, alors que vous-même vous êtes en train d'accepter au milieu de vous des personnes qui ne veulent pas accepter le Seigneur ou se repentir. Vous savez ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de souiller, de troubler l'eau afin que lorsque un vrai pécheur va venir chercher de l'aide, il ne trouvera pas de l'eau pure. Tout ce que je vous ai dit, c'était juste pour vous montrer comment ce qui arrive à une personne qui a commencé à s'aimer soi-même. Et je dis au début que tout le monde a de l'amour. Il y a personne il n'existe personne qui vit sans amour. Mais si vous commencez à ne plus aimer Dieu, vous allez commencer à vous aimer vous-même. Alors, regardons maintenant à l'amour que Dieu attend de nous. Et je repars dans le psaume 45, au verset 11 chez nous. Et 12. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté, puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Nouvelle épouse, elle a un nouveau roi, un nouveau mari, elle aime son roi. Voyez, mes amis, si vous avez reçu le pardon en réalité, vous allez l'aimer, même si il est d'un pays différent, il est du ciel, tu vas l'aimer.
j'ai été béni, beaucoup béni avant-hier. Je pense que c'était jeudi ou vendredi, les choses vont très vite. Lorsqu'on était en train de célébrer l'ouverture de la nouvelle serre, Et j'étais là et je parlais à Monsieur Newlands, Joe Newlands. Je ne sais même pas s'il va s'en souvenir de ce qu'il a dit. Mais c'était une phrase, une seule phrase qu'il a dite. Il dit, si nous voyons toute cette bonne chose ou toute cette bonté que le Seigneur nous accorde, ça nous pousse à aimer le Seigneur. Et il a commencé à, comme si faire, à pleurer, à faire couler des larmes. C'était profond. Quand on voit tout le bien que Dieu a fait pour nous, on aime encore plus le Seigneur. Mes amis, un enfant véritable de Dieu aime Dieu, c'est pourquoi il garde les commandements de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il est légaliste. Ce verset dit « Oublie ton peuple », c'est ce qu'il dit à la princesse. Le Seigneur veut qu'on oublie notre peuple, le peuple, les gens du monde, d'où on vient. Là où on vivait avant et où on existait avant. Dieu veut que tu oublies totalement, complètement tous tes anciens amis, ton roi et toutes les personnes à qui tu étais loyal. Je ne vais jamais oublier l'histoire que le révérend Steger nous a racontée une fois. Il y a un pasteur en Russie qui avait été arrêté à cause de sa foi en Russie et on l'avait mis en prison. Et si je me rappelle correctement, il avait des petits-enfants et qui s'étaient attaché à lui et les soldats qui sont venus l'arrêter ont tiré les enfants de lui et sa femme aussi voulait aider. Sa femme aussi, on l'a poussé de côté et ils ont saisi le mari. Et il a dû choisir, est-ce que je vais trahir Christ et rester avec ma famille ou est-ce que je vais aller avec Christ et se retourner contre ma famille. Et il dit qu'il a dû mourir et oublier ses petits-enfants et son épouse. Il dit que pendant toutes ces années en prison, l'amour pour sa famille avait pris fin. Et après plusieurs années, il a été libéré. Et il a dit qu'en sortant de prison, il s'est rendu compte qu'il avait
un amour nouveau pour sa famille et pas un amour humain, mais l'amour de Dieu pour sa famille. Oh, combien c'est différent, combien c'est différent l'amour de Dieu quand on compare cela à l'amour d'Hollywood. Cette princesse, cette fille ici n'est pas autorisée, supposée être assise là en rêvant de son peuple. Oh, mes amis, nous sommes en train de perdre quand on pense à notre peuple dont les gens du monde. On n'est pas supposé à penser aux gens du monde. Vous savez pourquoi les gens ne peuvent pas se libérer de leur pornographie qui les souille? Parce qu'ils passent du temps assis en pensant aux choses qu'ils ont vues. Les choses sales, souillées, sont devenues des choses normales pour eux. Et les experts ont dit que quelqu'un qui... les experts disent que celui qui se nourrit davantage de la pornographie, il y a un instinct qui se réveille en lui. Un instinct comme chasseur qui se réveille en lui, comme un chasseur qui court après un gibier. Et un accro de la pornographie, il est là assis et il réfléchit, qu'est-ce que je peux encore regarder pour me nourrir davantage? Qu'est-ce que je n'ai pas encore vu? Quel angle je peux encore regarder ou rechercher pour trouver plus d'envie? Vous savez, dans notre jardin, nous avons des chiens qui aiment à courir, à chasser des chats. Mais dans notre maison, nous avons quelques chats. Il y a un nouveau chat qui était... Il y avait un nouveau chat et très jeune. La porte arrière de notre maison peut s'ouvrir, il y a à deux battants, là en bas et en haut, et le battant en haut était ouvert. Et ce petit chat-là, qui ne connaissait pas encore ses chiens, était monté sur le battant inférieur et était là, regardait les chiens qui étaient au jardin. Et je me suis dit, oh, petit chat, tu ne connais pas combien tu es proche de la mort. C'est juste cette petite porte qui est en train de te garder loin de ce groupe de chiens qui est prêt à te dévorer. C'est juste un instant ou un clin d'œil. Tu es déjà là et tu es en difficulté et tu as perdu ta vie. Toi qui es tenté et toi qui es accro, dépendant de la pornographie, c'est juste un seul bouton que tu vas appuyer. Et le diable va te jeter aux chiens qui vont te déchiqueter et va te déchiqueter et va te donner l'image que tout ce que tu veux faire est normal parce que tout le monde le fait. Et aussi, un seul bouton peut te ramener de la malédiction de Dieu à la bénédiction de Dieu.
Le prince a dit à la princesse que tu n'es pas supposé penser à ton peuple. Tu es dans un nouveau royaume. Dans l'ancien royaume, tu pouvais trouver des fautes, avoir des fautes sur n'importe qui, et tu pouvais penser que tout le monde avait tort. J'ai souvent conseillé des gens. J'ai dit, voilà, si c'est toi et avec quelqu'un, vous n'arrivez pas à vous regarder en face, nous devons aller voir qui a raison, qui a tort. Mais si maintenant tu trouves que tout le monde a tort, que tu trouves des fautes, tu trouves toujours des fautes avec tout le monde, ça devient étrange que toi tu es le seul qui a raison et tout le monde a tort. Non, ne viens pas jouer à un jeu avec moi. Donc, il y avait quelqu'un qui était sur l'autoroute, il était sur le mauvais côté et il allait contre les autres voitures qui venaient dans ce sens-là. Et il a entendu dans la radio qui disait que faites attention, il y a une voiture qui vient à le côté qui roule dans le sens contraire. Et il a dit quoi? Et il ne savait pas que c'était lui. Donc il y a des personnes comme ça qui pensent qu'ils ont raison alors que ils ont raison, mais ils ont raison contre toutes ces personnes-là. Qu'eux, ils pensent qu'ils ont tort. Voilà une autre responsabilité que cette princesse avait. Elle ne pouvait pas apporter avec elle les règles ou les lois du pays d'où elle était dans un nouveau pays. Vous ne pouvez pas aller à l'église pour regarder les filles. Ça, c'est l'ancien royaume. Hein. Ce n'est pas des choses qui se font dans le royaume de Christ. Vous ne pouvez pas utiliser le royaume, l'église de Dieu pour promouvoir les règles du royaume du monde ou ton propre royaume et pour entraîner le standard mondain dans l'église ou utiliser l'église pour bâtir ton image ou vraiment ton orgueil. Et au verset 12, il est dit, le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Mes amis, nous sommes maintenant l'épouse de Christ et nous n'avons pas de droit. Nous lui appartenons absolument. Il a son standard de beauté et ce n'est pas ton standard à toi, ce n'est pas mon standard. La pureté
est belle pour lui, est une beauté pour lui. Et c'est ce que le Seigneur désire de toi, attend de toi, la pureté. Mes amis, les conditions du nouveau royaume seront difficiles, extrêmement difficiles pour une personne qui ne veut pas se soumettre à cela et qui marche encore selon la chair. Et si tu vis encore une vie charnelle, ce sera un endroit difficile à supporter, un endroit à tolérer. Ce serait difficile pour vous de vivre ici. Si tu permets encore que les petites choses t'irritent et te tournent sans dessus-dessous, si tu veux encore rendre aux gens le mal qu'ils t'ont fait quand ils t'ont fait quelque chose de mal, si tu veux toujours te sentir bien ou bon tout le temps, tout cela est pour l'homme charnel. La Bible dit que pour une telle personne, pour un homme charnel, il lui sera impossible de plaire à Dieu. Donc si on permet à nos émotions charnelles, la colère, la jalousie, et vouloir se lever soi-même lorsqu'on a été humilié, nous ne serions pas capables de vivre dans ce royaume. Peut-être nous avons essayé de lutter pour nos droits, mais quand on arrive au royaume de Dieu, ça n'existe plus. Et voilà le défi. Est-ce que j'ai déjà adopté le royaume du prince de la paix? Est-ce que j'ai livré tous mes droits? Est-ce que je suis un esclave de Christ? Disponible pour lui, pour qu'il m'utilise quand il veut, où il veut, et sans plus avoir de droits pour moi-même. Et c'est ça mon souci de ce que la COVID a pu causer au milieu de nous. Ça nous a peut-être volé du royaume, du roi, et nous a ramené dans le royaume ancien. Mais mon ami, peu importe là où tu es, que tu sois dans un endroit où spirituellement tu es gelé, ou que tu sois un collecteur d'impôts ou un pharisien, l'invitation de Christ ou de Dieu est encore disponible. N'aie pas peur ou honte d'apporter ton sacrifice ouvertement et n'aie pas peur de confesser et de le faire connaître parce que le pardon existe pour tout le monde. Que tu sois pharisien ou un collecteur d'impôts, il existe pardon pour tout le monde.
Et même si tu es tombé, il y a encore une possibilité pour que tu reviennes à Christ. Christ ne fermera pas la porte, ne te fermera pas la porte au nez. Pourvu que tu viennes selon les conditions de Christ, Christ t'ouvrira avec des bras ouverts comme le Père a reçu le Fils prodigue. J'ai une image dans mon bureau parce que c'est vraiment l'une des plus belles images de la Bible. C'était le fils prodigue qui revenait à son père et il tombe dans les bras de son père en regardant par terre. Donc, et il est très faible parce que il a travaillé au milieu des cochons sans avoir même quelque chose à manger. Donc ses jambes sont faibles au point quand il arrive, il tombe dans ses bras. Et le père l'embrasse. Et le colle à sa poitrine. Et nous savons ce qui est arrivé dans la suite. Nous savons ce qui doit se passer quand on a été allié du monde, ce qui doit se passer pour... Il y a une possibilité pour revenir, une possibilité de revenir au royaume du Père. Et Christ tient à la porte et pour nous accueillir. Nous avons été vraiment bénis par cette réunion. Je ne sais pas si toi tu es béni. Lorsque Ézéchiel avait été mandaté pour prophétiser aux bergers, parce qu'il était vu, il était visible, il était vu que il y avait des brebis dans le troupeau qui boitaient, qui étaient malades, et j'ai vu ça de cette manière. Et cela est, si tu es berger, tu es prédicateur, va chercher ceux qui boitent, ceux qui sont malades. Va dans les hôpitaux, va au lit, au chevet des malades, va visiter cette personne qui est malade. Il y a cela que le Seigneur a repris au milieu de nous. Ils étaient connus. Ils étaient connus. Ils étaient connus comme des personnes. Quand les autres étaient malades, ils pouvaient aussi aller les visiter et on pouvait remarquer que ils pouvaient aller les visiter chez eux ou à l'hôpital. On peut remarquer qu'ils avaient un don. Donc, prêtons attention et écoutons lorsqu'il est dit qu'il y a des brebis qui boitent, qui sont malades. Alors, allons les aider. Moi, je prends soin des... J'ai pris soin des brebis et... Finalement, j'en ai eu 100 et une brebis, après une autre ont été volées. Je suis resté avec 20. Et pourquoi j'ai eu ce nombre? Parce que j'en prenais soin. Et elles avaient augmenté parce que je prenais soin d'eux. Je pesais mes brebis et quand les brebis avaient des maladies ou des tiques, j'en prenais soin. Et quand je les conduisais pour le pâturage, au pâturage, je pouvais remarquer la brebis qui était malade. Tu pouvais voir celle qui boitait ou quelque chose qui n'allait pas. Tu l'attrapais, tu vérifiais, tu vois, oh, il y a un tic là, il y a quelque chose qui l'ennuie. Parce que vous avez entendu le docteur qui disait que quand vous regardez la pornographie, quelque chose passe dans ton cerveau. Parce qu'il se pourrait que ce tic de pornographie t'a empoisonné et c'est entré en toi, cette poison est entrée en toi, aujourd'hui tu boites, aujourd'hui tu es malade. Et aujourd'hui tu es vu comme quelqu'un qui boite. Oh enfant de Dieu, il y a quelque chose, tu n'étais pas comme ça avant. Il y a quelque chose qui est entré dans ta vie. Parce que la famille, la femme, les enfants peuvent observer que avec cette brebis-là, les choses ne vont pas bien. C'est pourquoi tu dois prendre le temps de t'examiner, de regarder, de voir, même si c'est juste un petit bobo, si c'est impur dans ton oreille, cela doit être enlevé. Pour moi, ça a été difficile. C'était pas vraiment facile de ne pas visiter nos frères et sœurs dans d'autres branches de la mission. Nous ne savons pas comment allons-nous trouver ces brebis ou ces troupeaux-là, si elles seraient encore en vie ou elles seraient mortes. Donc ne reste pas avec quelque chose dans ton cœur. Ôte cette chose afin que Dieu t'aide. Dieu a dit à Ézéchiel, maintenant, va, parle aux bergers, dis-leur clairement qu'il y a des brebis qui sont en train de boiter. Avouons que je suis cette brebis-là qui est malade, j'ai quelque chose dans ma vie. Est-ce que cet amour que tu avais avant brûle encore dans ton cœur? Est-ce que tu vis vraiment pour le Seigneur? Est-ce que tu expérimentes vraiment son amour brûlant en toi? Peut-être tu te trouves que tu es malade et tu te rends compte que tu as les tiques partout sur ton corps et que tu es malade aujourd'hui. Vous savez, une brebis qui a été mordue par un tique, vous allez remarquer que les choses ne sont plus pareilles parce que cette brebis est malade et boiteuse et elle n'est plus pareille. Si tu reconnais et que tu dises que voilà un tic sur moi et enlevez-le de moi. Et que toi-même, par exemple, si tu reprends encore ce tic-là et que tu le colles encore en toi, permettez-moi de vous dire, frères et sœurs, enfants, vous ne serez plus pardonnés. Parce que la Bible dit, va et ne pêche plus. Si tu repars vers ce que tu as vomi, tu ne seras plus capable de vivre pour le Seigneur. Parce que cela sera visible et clair que quelque chose est entré dans ta vie. C'est pourquoi, jeune personne, garçon et fille, si tu repars toujours vers la même chose, le même péché spirituellement, tu ne pourras pas rester vivant, en vie. C'est pourquoi, si tu persévères dans ton péché et que tu continues, permets-moi de te le dire, que tu prêches, que tu chantes, tu ne pourras pas être pardonné. C'est pourquoi humilie-toi. Allons crier, pleurer devant le Seigneur. Soyons à ses pieds et plaidons pour sa grâce en disant, Seigneur, aide-moi afin que cette chose dans ma vie prenne fin. Rappelez-vous que la parole dit que mes brebis entendent ma voix. Lorsque le Seigneur te parle, si tu es sa brebis, alors écoute ce que sa voix dit. Est-ce que tu es cette brebis qui... Est-ce que tu es cette brebis de Dieu qui n'écoute plus sa voix et qui va regarder à la pornographie? Et nous avons appris que cette histoire de pornographie est une histoire démoniaque. Et voyez, la voix va venir pour te dire que regarde là, regarde de ce côté, regarde de l'autre côté. Vous savez, rappelez-vous que c'est une chose mauvaise. Critiquer et se moquer, toutes ces choses sont sur tes lèvres. Prions ensemble. Ô notre Dieu, tu nous aimes. Tu nous aimes et nous avons eu la possibilité d'écouter une telle réunion. Tu nous as réveillés. Et Seigneur, je prie que celui qui est vraiment, on peut dire, gelé, a certainement écouté aujourd'hui, a écouté cet évangile qui est pur, cet évangile qui apporte la vérité. Seigneur, nous avons besoin de cet évangile qui nous réveille et qui nous encourage spirituellement. Seigneur, rappelle-toi. Souviens-toi de ces brebis malades. Tu ne parles pas des bergers, tu ne parles pas aujourd'hui de ces bergers-là d'autrefois, tu nous parles à nous aujourd'hui. Seigneur, il y a ces brebis-là qui sont malades dehors et nous sommes des bergers. Il ne doit pas être trouvé que nous, les bergers, nous sommes déjà malades. Et si nous sommes malades,
Il y a aussi des tics qui doivent être ôtés spirituellement de nous, Seigneur. Amen.